Pourrais-tu nous expliquer le PLF-RSS? Alors, comment est-ce qu'on fait pour réformer les retraites? On peut voter une loi qui réforme les retraites, mais une loi simple, on peut. Mais on peut aussi passer par un autre véhicule législatif qui s'appelle un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Vous le savez, chaque année, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement votent un budget pour l'État. On appelle ça le projet de loi de finances, et donc on décide des impôts et des dépenses. Mais il y a un autre budget qui est voté à côté, c'est un projet de loi de financement de la sécurité sociale, où l'État décide du montant de son aide, si je puis dire, à notre système de sécurité sociale. Donc le gouvernement, l'État, apporte son concours au financement de la sécurité sociale, et dans le cadre de cette discussion, l'État peut apporter des modifications à notre système de sécurité sociale, sur le remboursement des soins, sur les jours de carence, sur plein de trucs, machin et tout, y compris sur le système de retraite. Il semblerait que Elisabeth Borne va annoncer dans un quart d'heure que ce que va faire le gouvernement pour la réforme de la sécurité, pour la réforme des retraites, c'est de passer par un véhicule qui s'appelle un projet de loi de financement rectificatif. En fait, le principe d'un projet de loi de financement comme d'un projet de loi de finances, c'est qu'on le vote une fois par an. Une fois par an, on décide, on vote le budget de l'année suivante. On décide de combien d'argent on va lever, combien d'argent on va claquer, dans quel domaine, etc. Mais pour l'année suivante, c'est un truc prévisionnel. Mais il y a une possibilité. C'est de voter des budgets en cours d'exercice. Pendant l'année, alors qu'on est en train d'exécuter le budget, on vote une rectification du budget en cours pour changer les paramètres du budget qu'on est en train de mettre en place. C'est par exemple ce qui avait été fait, rappelez-vous, au moment du Covid. Au moment du Covid, au moment où on mettait en place tout un tas d'aides pour les entreprises, les ménages, le chômage partiel, etc. À l'époque, Édouard Philippe avait présenté, je crois de mémoire, quatre budgets rectificatifs dans la même année. On a changé quatre fois le budget en cours d'année pour rajouter des crédits, rajouter du pognon sur des domaines particuliers pour aider face au Covid. Donc des budgets rectificatifs, on peut en faire autant qu'on veut. Donc là, a priori, ce que devrait annoncer Elisabeth Borne dans sa conférence de presse, c'est que le gouvernement va réformer les retraites, en tout cas modifier l'âge légal de départ à la retraite, dans le cadre d'un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, qui pourrait éventuellement être accompagné d'un deuxième projet de loi plus tard, mais de projet de loi simple, qui comprendrait d'autres mesures. Qui irait dans le sens de l'amélioration des petites retraites, des carrières longues, de la pénibilité, etc. OK? Et pourquoi est-ce qu'il ferait ça, le gouvernement? Pourquoi est-ce qu'il fonctionnerait en deux temps avec deux véhicules côte à côte, liés l'un à l'autre, mais séparés? C'est parce que le PLFRSS est un projet de loi de budgétaire et que les projets de loi budgétaires n'ont pas de limite d'usage de 49.3. Alors que les autres projets de loi, les projets de loi simples, eux, sont limités à 1,49.3 par session. Donc, si le gouvernement crame sa cartouche maintenant, il ne pourra plus utiliser le 49.3 avant le mois de juin prochain. Et il préfère se garder la cartouche. OK? A priori, ça pourrait être l'explication. La deuxième explication pourrait être que le gouvernement pourrait donc faire passer son PLFRSS avec un 49.3 éventuellement. Et que le deuxième projet de loi, lui, pourrait être soutenu par les députés Les Républicains, qui du coup n'aurait pas à voter le PLFRSS, parce que dans le cas d'un 49.3, il n'y a même pas à voter. Donc est-ce que les députés LR voteront pour ou contre? Ben, ils voteront pas. En revanche, le deuxième projet de loi, lui, il pourrait être travaillé avec les LR pour rajouter plein de trucs pour les personnes âgées, les minimums vieillesse, etc. Voilà, ça pourrait être la strate choisie par le gouvernement. Je parle au conditionnel parce qu'on aura la réponse dans 15 minutes. C'est un giga cheat code. Non, c'est pas un giga cheat code, c'est même assez classique en réalité. En fait, c'est très important les lois budgétaires, parce que vous comprenez bien que on peut voter toutes les lois du monde, mais tant qu'on ne se dote pas du budget, c'est le budget le nerf de la guerre, c'est le pognon qu'on met. Vous pouvez faire une réforme de l'école, vous pouvez faire une réforme de l'hôpital, vous pouvez faire une réforme de l'armée, vous pouvez faire une réforme de ce que vous voulez. Ce qui compte en réalité, c'est combien de pognon vous allez mettre. Et donc, le budget, c'est ce qui va donner les moyens de mener les politiques publiques. Donc en fait, le budget est une loi qui va supporter l'action du gouvernement dans l'ensemble des domaines de l'État. Si j'ai bien compris les interventions de Borne, ils ne feront pas marche arrière de toute façon, quelle que soit la pression de la rue. Oui, mais ça, c'est normal qu'elle dise ça. Enfin, tous les gouvernements disent, avant un mouvement social qu'on anticipe, ils disent, mais c'est pas. Notre réforme, on estime qu'elle est juste et qu'elle est bonne. C'est pas parce qu'il y a des manifestants contre qu'on va reculer, etc. Ça, c'est normal de dire ça. Hein. Pré-négo, tu dis on lâchera rien. C'est normal. Les syndicats font pareil. Hein. Ils disent on lâchera rien, on va aller dans la rue et puis ensuite ils négocient. Et puis on voit si on tombe sur un accord ou pas. Il se passe quoi dans 15 minutes des annonces? Ouais, et pas n'importe quelle annonce, l'annonce de la réforme des retraites par Elisabeth Borne. Comment est-ce que tu expliques le grand nombre de 49.3 utilisés cette année? Je l'explique déjà par le fait que c'était des lois budgétaires et que le nombre de 49.3 n'est pas limité. Et je l'explique ensuite par le fait que les lois budgétaires font l'objet de plusieurs lectures entre l'Assemblée nationale et le Sénat et que c'est normal d'utiliser un 49.3. Enfin, c'est normal. Quand tu as utilisé un 49.3 en première lecture, c'est logique de l'utiliser en deuxième lecture. Il n'y a aucune raison que les députés changent d'avis entre la première et la deuxième lecture. C'est le même budget qui va dans la même direction. Donc si les députés, s'il n'y avait pas de majorité à la première lecture, il n'y en aura pas à la deuxième. Donc c'est normal de... Quand le 49.3 a été déclenché une première fois, c'est normal de le redéclencher. C'est complètement logique. Faut pas, c'est pas la peine de s'en émouvoir. Voilà. La réforme est annoncée en séance publique ou devant une commission. Elle est annoncée à une conférence de presse. Ça a été entièrement brandé spécialement pour Jean Mascier, pour son stream et tout. Il y aura un pupitre, il y aura Elisabeth Borne derrière le pupitre. Voilà, tout simple. Les années précédentes, il n'y en avait pas autant, y a-t-il une raison? Ah oui, non, alors ça par contre, le 49-3, il a une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue. Il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ni le gouvernement, ni aucun autre groupe n'a la majorité à lui tout seul. Donc voilà. Attendez, faut que je tweete. Faut que je tweete pour annoncer à la populace. Live. OMG, c'est maintenant. La réforme des retraites dévoilée en direct. Hashtag keynote. Hashtag CES Las Vegas. Hashtag Nintendo Direct. Hashtag E3. Ah oui, c'est E3, c'est pas le CES, c'est l'E3. Ah mais non, c'est le CES. Non, non, c'est... Attends. C'est le CES à Las Vegas, et c'est... Oui. Hashtag E3. Hashtag TwitchCon. Voilà, on va s'arrêter là. Twitch.tv slash Jean Massier. Pif paf pouf. Merde! Je m'a trompé dans le lien. Attendez, likez pas le Twitch, je le supprime. Il est nul! Il a mis le mauvais lien vers sa chaîne, quel connard! Supprimé. Hop, hop. HTTP deux points double slash twitch.tv slash Jean Massier. Voilà, ça c'est bon. Voilà, vous pouvez liker et retweeter. quand la réforme prendra effet, comment ça se passe? Bah, ça dépend ce qu'il y a dans la réforme. Tu peux prévoir dans la réforme son entrée en vigueur. Alors, ça prendra probablement effet dès l'été prochain, je crois. Mais tu peux aussi prévoir une durée d'entrée en vigueur jusqu'en 2030, si tu veux. Tu peux dire que chaque année, l'entrée en vigueur se fera progressivement de manière à éviter les effets de cliquet, les effets de palier, etc. Gardez en tête un certain nombre de mots et de concepts qui vont être utilisés par la Première ministre, la notion de durée de cotisation, donc combien de temps est-ce que je dois cotiser pour avoir le droit à une retraite à taux plein, donc je vais toucher 100% de mes droits à la retraite, donc c'est 40 ans aujourd'hui, et puis c'est ce qu'on appelle les annuités, j'en ai parlé tout à l'heure, mais en fait ça évolue en fonction des années et des régimes. L'âge légal de départ à la retraite, c'est à quel âge j'ai le droit de réclamer mes droits pour un départ à la retraite, donc pas de retraite anticipée, etc. Il y a l'âge limite de départ à la retraite, c'est 67 ans. Donc voilà. Oublier la retraite à points, ça c'est oublié. C'était une réforme qui a échoué avant le Covid en 2019-2020. Il n'y a pas de système à points. Ça, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 de créer un système unique qui réunisse les 42 régimes différents de régimes de retraite et qui égalise les Français. Un euro cotisé ouvre les mêmes droits, alors qu'aujourd'hui, il y a des régimes différents. Ça dépend de où vous bossez, où vous cotisez, etc. Il se passe quoi si tu arrives à 67 ans et que tu n'as pas toutes tes annuités? À ce moment-là, tu touches ce qu'on appelle la retraite minimum. Le minimum vieillesse. Non, c'est pas le minimum vieillesse, pardon. C'est le minimum contributif. Donc c'est 85% du SMIC, en tout cas c'est le projet de la réforme, donc 1200. Si tu arrives à l'âge légal de départ à la retraite et que tu n'as pas 40 annuités, tu peux obtenir. En fait, c'est pas compliqué, on fait le calcul, on regarde combien tu as d'annuités de cotisation, on calcule tes droits, et si tu arrives en dessous de 1200 euros par mois, bah, tu montes automatiquement à 1200. Tu ne peux pas toucher moins. Okay. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe si tu as 67 ans, mais que tu n'as pas 40 ans d'annuité, que tu n'as pas du tout de trimestre de cotisation, etc. Comment tu fais? Et bien là, tu as ce qu'on appelle le minimum vieillesse. Minimum vieillesse, t'es. Minimum vieillesse, t'es. Je sais plus à combien il est le minimum vieillesse aujourd'hui. Pas loin du taux de pauvreté, je pense. Pas loin du. Ouais. Tu peux aussi racheter des trimestres. Alors oui, je rentre pas dans le détail. Hein. Ouais, il est à 900 balles à peu près le minimum vieillesse aujourd'hui. Je rentre pas dans le détail, mais il y a aussi des mécanismes de rachat de trimestres. C'est-à-dire que si tu arrives à l'âge de départ à la retraite et qu'il te manque 3, 4 trimestres, 5 trimestres, il y a un système de rachat. Je rentre pas dans le détail, mais c'est possible. Ça peut être payé par ton entreprise aussi pour des départs anticipés, pour... voilà. Bon, Michel, t'as pas encore l'âge, mais est-ce que ça te dit qu'on t'envoie à la retraite un an plus tôt et qu'on te paye un rachat de trimestre. T'as bossé 30 ans dans la boîte, on te doit bien ça. Allez Michel, allez on boit un coup pour fêter ça. Voilà, ça c'est possible. Est-ce que quelqu'un s'est déjà exprimé pourquoi il y a 3 ans il voulait remplacer le système par répartition pour un système à un point? Non. Non, non, non. Le système à points ne remplaçait pas la répartition. La logique de la répartition était totalement conservée par le système à points. C'est pas un remplacement de système. On est toujours dans un système de répartition. Hein. Ça change pas. Ça bouge pas, ça change pas. C'est toujours pareil. Là, d'ailleurs, le gouvernement va faire une réforme très paramétrique. Hein. Bouger l'âge légal de départ à la retraite, c'est juste un paramètre parmi plein. Comment est-ce que vous pouvez faire pour bouger les retraites? Vous pouvez voter ce que vous voulez. Vous pouvez voter une augmentation des cotisations retraite. Donc les gens cotiseront plus, ça équilibre le budget et c'est bien. Bon, le problème c'est que du coup ça fait davantage de charges à payer et ça diminue d'autant le salaire net des gens. Le gouvernement n'est pas chaud pour réduire les salaires. Hein. Aucun gouvernement du monde n'est chaud pour réduire aucun salaire. Donc bon, ça on n'est pas chaud. Ensuite vous pouvez faire quoi aussi? Il y a un truc très simple, hein. Vous baissez les pensions de retraite des vieux. Oui, on dépense moins d'argent chaque mois. Là pareil, aucun gouvernement du monde ne souhaite réduire les pensions de retraite des personnes âgées. C'est le truc le plus impopulaire du monde, c'est dégueulasse, etc. Donc qu'est-ce qui reste? Sur quel levier vous pouvez agir? Il vous reste la durée de cotisation. La durée de cotisation, c'est soit le nombre d'annuités, non, soit la durée de cotisation, soit l'âge légal. Après, il y a d'autres leviers que vous pouvez activer si vous voulez. Vous pouvez créer des taxes fléchées comme la CSG, par exemple, qui a été créée par Rocard pour ça, qui aujourd'hui représente quand même une part importante du financement du bordel. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez modifier les taux de cotisation en fonction du salaire. Vous pouvez augmenter la participation de l'État au financement du bordel. Ouais, aller chercher de l'argent ailleurs, quoi. Vous pouvez la journée de solidarité le 1er mai. Ouais, vous pouvez créer. Bah, c'est une autre manière d'augmenter la durée de cotisation en réalité. Hein. Tu crées un jour férié par an qui est travaillé, bah, en fait, tu augmentes d'autant le nombre de cotisations qui vont rentrer dans les caisses. Hein. Certains proposent de réduire les retraites des plus aisés. Ouais, alors il y a beaucoup de gens aisés dont les retraites sont essentiellement des retraites complémentaires. C'est pas la retraite de base qui te enrichit, hein. La retraite de base elle est pas énorme en général, c'est si tu as une bonne complémentaire. Bon, il se trouve que les cadres dirigeants, ça dépend comment ils ont cotisé. C'est le principe des retraites complémentaires, hein, c'est que c'est libre, libre à vous de choisir si vous voulez vous en mettre plein les poches pendant toute votre vie, mais vous allez retrouver sans pognon quand vous serez vieux. Ou alors à l'inverse, vous cotisez. Vous pouvez aussi épargner, c'est une autre manière de faire. Ah, ça commence! Attention! Elisabeth Borne, la Première ministre! Attendez, bougez pas.
Bien, mesdames et messieurs, avec Olivier Dussopt, Bruno Le Maire et Stanislas Guérini, nous souhaitons vous présenter le projet du gouvernement pour garantir l'avenir de nos retraites.
Alors.
Nous l'avons dit, nous voulons préserver notre système de retraite par répartition, c'est-à-dire un système où ceux qui travaillent
Ah merde!
les pensions des retraités. C'est pour le préserver que des majorités de droite comme de gauche ont mené des réformes ces dernières années. Et c'est pour le préserver que nous devons le faire évoluer. Présenter un tel projet est toujours un moment de vérité. C'est un choix politique essentiel. C'est défendre l'un des fondements de notre modèle social. C'est faire vivre la solidarité entre les générations. Mais cette solidarité repose sur un équilibre. Il faut que les cotisations des actifs financent les pensions des retraités. Dire que cet équilibre n'est plus assuré n'est pas une posture, c'est un constat. Un constat réalisé par tous ceux qui se sont penchés sur les retraites. Car sans entrer dans des études et des hypothèses complexes, il y a une réalité que chacun connaît. Le nombre de ceux qui cotisent pour les retraites diminue par rapport au nombre de retraités. C'est un fait, pas un argument politique. Nous devons être capables de regarder la réalité en face et de trouver des solutions pour préserver notre modèle social. J'ai bien conscience que faire évoluer notre système de retraite suscite des interrogations et des craintes chez les Français. Nous voulons y
À
répondre.
peu près deux tiers des Français sont opposés à la réforme.
Ce sujet n'est pas nouveau. Il a fait l'objet de très nombreuses discussions au cours du précédent quinquennat. Un projet ambitieux avait été présenté par Édouard Philippe. Il avait suscité à la fois des attentes et des contestations. Nous avons appris de cette période et nous en avons tiré les conséquences pour bâtir ce projet. Nous conservons une ambition de justice et de progrès. Par ailleurs, la nécessité d'adapter notre système pour le préserver a été au cœur de la campagne présidentielle, puis de celle des législatives. Ça n'est donc une surprise pour
Au
personne.
cœur, peut-être pas, mais ça a été abordé, ouais.
Notre
Ouais.
ambition a été portée en toute transparence par le président de la République et partagée avec les Français. Je souhaite maintenant vous indiquer le cadre dans lequel s'inscrit le travail que nous conduisons depuis plusieurs mois afin d'assurer la pérennité de notre système de retraite.
Ouais.
Tout d'abord, nous proposons un projet qui finance exclusivement nos retraites. Je le répète, chaque euro cotisé servira à financer nos retraites, rien d'autre. Ensuite, Nous refusons d'augmenter le coût du travail et les impôts.
Donc pas d'augmentation de cotisation.
Plein emploi. Enfin, et c'est un élément majeur dans un moment d'incertitude, nous présentons un projet qui garantit l'équilibre de notre système en 2030. Nous avons également posé deux principes structurants. D'une part, nous voulons que ceux qui ont cotisé toute leur vie partent avec une meilleure retraite. Et d'autre part, nous voulons prendre en compte les différences entre les métiers comme entre les carrières. Nous ne sommes pas égaux devant le travail. On ne peut donc pas demander à chacun de travailler uniformément plus longtemps.
Okay.
Autour de ce cadre et de ces principes, nous avons mené des concertations denses. Nous avons avancé avec des convictions, mais sans idées définitives. Le ministre du Travail a mené trois cycles de concertations avec les partenaires sociaux depuis octobre. J'ai personnellement rencontré à trois reprises, et encore la semaine dernière, les dirigeants des organisations syndicales et patronales. Chacun a participé aux discussions. J'ai également rencontré tous les présidents de groupes parlementaires à plusieurs reprises, spécifiquement sur la question des retraites. Ce dialogue a été utile, car je suis certaine que l'échange, même en cas de désaccord sur des points importants, nous fait collectivement progresser. On ne mesure pas l'intérêt d'une concertation par une réponse binaire, soutien ou refus de la réforme. Des mois de travail, ce sont de multiples avancées qui dessinent un projet différent. Et je veux le dire simplement, pour moi, comme pour Olivier Dussopt, qui le défendra au Parlement...
Olivier Dussopt, c'est le ministre du Travail.
...est meilleur qu'il n'était il y a 6 mois.
Donc Elisabeth Borne qui dit « J'ai discuté, j'ai concerté ».
Nous proposons aujourd'hui un projet pour l'équilibre de notre système de retraite, un projet de justice et un projet porteur de progrès social. Premier objectif, un projet d'équilibre. Le déséquilibre entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités va provoquer des déficits qui vont se creuser année après année.
Si on change rien.
Laisser s'accumuler ces déficits serait irresponsable. Les aggraver davantage en prenant des mesures démagogiques comme abaisser l'âge de départ à la retraite le serait plus encore. Cela conduirait inéluctablement à augmenter massivement les impôts, à diminuer drastiquement les pensions, voire à mettre en péril notre système de retraite. Cela, nous n'en voulons pas. Je suis bien consciente que ça n'est neutre pour personne, mais pour l'avenir de notre système de retraite par répartition, nous proposons que celles et ceux qui le peuvent travaillent progressivement plus longtemps. Ce choix, des majorités de droite comme de gauche l'ont fait avant nous.
Pas de la même manière, mais
ce
ouais.
Ce choix, c'est aussi celui qu'ont réalisé tous nos voisins européens. Dans un premier temps, chacun le sait, nous avions envisagé de repousser l'âge légal de la retraite à 65 ans pour équilibrer le système en 2030. Comme le président de la République et moi avons pu le dire à de nombreuses reprises, ces 65 ans n'ont jamais été une fin en soi. Nous avons examiné les différentes hypothèses qui permettraient d'atteindre l'équilibre en bougeant d'autres éléments. Nous avons par ailleurs regardé de près les propositions de chacun, notamment l'amendement voté depuis plusieurs années par le Sénat. En effet, chacun des choix en apparence technique a des impacts en termes de répartition des contributions ou de justice sociale. Si nous présentons aujourd'hui une proposition différente que celle que nous portions initialement, c'est précisément grâce à ces semaines de dialogue.
Okay.
Je suis reconnaissante à tous les partenaires sociaux.
Donc les syndicats nous ont fait changer d'avis, nous ont fait évoluer.
Les plus opposés.
Faudrait qu'elle définisse ceux qui le peuvent quand elle a dit ceux qui le peuvent travailler plus longtemps.
C'est un exercice collectif. Aussi, à compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030.
Okay.
Nous serons donc à 63 ans et 3 mois à la fin du quinquennat.
Okay.
Parallèlement, nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation prévus par la réforme Touraine pour partir avec une retraite à taux plein, mais nous atteindrons cette cible plus vite en passant à un rythme d'un trimestre par an.
Ok, donc il y a une montée en charge accélérée, d'accord.
En 2027.
Okay.
Enfin, nous maintiendrons à 67 ans l'âge auquel les personnes peuvent partir à la retraite sans décote, quelle que soit leur durée de cotisation.
67 ans.
Okay. C'est essentiel pour celles et ceux qui ont eu une carrière hachée ou incomplète, et je pense ici particulièrement aux femmes. Ce projet est bien universel. Il concernera tous les actifs, salariés, indépendants et fonctionnaires. Travailler plus permettra aux futurs retraités de bénéficier de meilleures pensions. Pour que ce projet soit pleinement équilibré, il faudra que chacun prenne sa part. C'est pourquoi nous demanderons aux employeurs une contribution supplémentaire pour le financement de la retraite. Mais nous refusons qu'elle augmente le coût du travail. C'est pourquoi nous baisserons symétriquement la cotisation des employeurs au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles qui est très excédentaire.
D'accord.
Et je veux le souligner.
Attends, du coup, il y a une augmentation des cotisations retraite.
Départ à la retraite qui atteindra 64 ans en 2030 et 43 années de cotisation. L'objectif sera atteint à cet horizon. Notre système par répartition sera alors à l'équilibre. Bruno Le Maire précisera dans quelques instants le cadrage financier de notre projet. Mesdames et messieurs, le deuxième pilier de notre projet, c'est la justice.
Donc là, ça va parler de l'augmentation des pensions.
Généraux, il y a la situation.
Le minimum contributif, etc.
Un système juste, c'est permettre à ceux qui ont commencé à travailler tôt de partir plus tôt. Nous allons conserver et améliorer le dispositif dit carrière longue en le rendant plus juste et plus lisible. Nous créerons notamment un niveau intermédiaire pour ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans.
Ouais. À 61
en 2030,
ans, ouais,
lorsque l'âge légal de départ à la retraite aura été porté à 64 ans, il restera à 58 ans pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt, avant 16 ans. Pour ceux qui ont commencé entre 16 et 18 ans, je pense notamment aux apprentis, la retraite sera possible à partir de 60 ans.
Les personnes qui commencent à bosser avant 16 ans, c'est beaucoup de, dans l'agriculture, dans la pêche aussi.
À partir de 60 ans.
C'est généralement des boulots familiaux, mais ça existe, ouais.
Nous rendrons le dispositif carrière longue plus juste, notamment pour les femmes. Avant ce projet, les périodes de congé parental n'étaient pas prises en compte dans la durée pour en bénéficier. Cela sera désormais le cas. Ainsi, davantage de Français seront concernés par le dispositif, un Français sur cinq arrivant à la retraite dans les prochaines années.
Ouais.
Un système juste, c'est aussi tenir compte de la pénibilité de certains métiers. Nous devons prendre en compte l'usure professionnelle liée aux conditions d'exercice de certains métiers hier et aujourd'hui.
Ah, donc le fonds de prévention dont on a parlé tout à l'heure, c'est 1 milliard d'euros, ok.
Le fonds professionnel de prévention, le C2P, nous devons mieux reconnaître l'impact d'autres contraintes sur la santé des travailleurs, notamment le port de charges lourdes ou les postures pénibles. Pour ces travailleurs, nous allons renforcer le suivi médical, repérer les fragilités et mieux accompagner ces salariés vers des dispositifs de départ anticipés à 62 ans pour raisons de santé. Ensuite, je ne peux pas me résoudre à ce que le travail puisse abîmer tant de nos compatriotes. C'est pour cela que la prévention est au cœur de notre projet. Nous allons créer un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle doté d'1 milliard d'euros.
Mmh.
Nous voulons ensuite réfléchir différemment à l'évolution des carrières et faciliter les reconversions. Ainsi, nous allons améliorer le C2P et permettre qu'il soit utilisé pour des reconversions professionnelles. Ce sont des avancées sociales tout au long de la carrière. Olivier Dussopt y reviendra.
Oui, c'est une prévention de la pénibilité, oui.
Je souhaite préciser que les militaires et les fonctionnaires en catégorie active, comme les policiers ou les sapeurs-pompiers, dont les métiers sont plus dangereux, pourront continuer à partir plus tôt. Ce sera aussi le cas pour les aides-soignantes dans la fonction publique hospitalière. La durée de service permettant de bénéficier d'un départ anticipé, tout comme l'âge d'annulation de la décote, n'évolueront pas.
D'accord, ok. Donc on ne change pas le système pour les fonctionnaires, assistantes
notre projet dans médicaux, la fonction publique.
Policiers,
un
militaires,
juste,
pompiers.
C'est également prendre en compte les situations de chacun et en particulier les plus fragiles. Un départ à 62 ans à taux plein sera maintenu pour les personnes en invalidité, en incapacité ou en inaptitude.
D'accord.
Cela représente 100 000 personnes par an. Par ailleurs, les années passées comme aidant auprès d'un parent âgé ou d'un enfant en situation de handicap seront désormais comptabilisées. Et je veux également que l'on répare une injustice de notre système actuel. Les trimestres que près de 2 millions de nos concitoyens ont passés en travaux d'utilité collective, les TUC des années 80, pourront enfin être pris en compte. Au total, grâce au dispositif que je viens de vous présenter, 4 personnes sur 10 partant en retraite chaque année pourront bénéficier de départs anticipés et n'auront pas à travailler jusqu'à 64 ans. Un système juste, c'est tenir compte, enfin, de l'évolution des professions et faire en sorte que le même métier donne la même retraite. Aussi, nous allons fermer la plupart des régimes spéciaux de retraite existants. Olivier Dussopt y reviendra.
Ouais.
C'est une question d'équité. Cette mesure ne s'appliquera qu'aux nouveaux embauchés qui seront désormais affiliés au régime général de retraite.
C'est la clause du grand-père. Mais du coup,
mesdames et messieurs,
c'est le retour de la retraite à points.
Troisième pilier,
enfin non, pas vraiment.
Le projet apportera des progrès sociaux. Une vie de travail doit garantir une retraite digne. Conformément à notre engagement, les salariés et les indépendants, notamment les artisans et les commerçants, qui ont cotisé toute leur vie avec des revenus autour du SMIC, partiront désormais avec une pension de 85% du SMIC net, soit une augmentation de 100 euros par mois. C'est près de 1 200 euros par mois dès cette année. Au-delà de la majorité présidentielle, lors des concertations, certains groupes parlementaires, je pense aux Républicains, ont insisté sur la nécessité de prendre en compte les retraités actuels.
Des mâles clins d'œil.
Cette demande a également été portée par des organisations syndicales et patronales. Je pense à la CFDT, l'UNSA, la CFTC, la CPME ou l'UDP. Les uns et les autres ont souligné que les femmes et les indépendants étaient la majorité de ceux qui touchent les plus petites retraites.
Ouais.
C'est une inégalité majeure à laquelle nous voulons répondre. Aussi, avec le président de la République, nous avons décidé d'intégrer dans notre projet la revalorisation des pensions de retraite actuelles pour tous ceux qui ont une carrière complète au niveau du SMIC. Grâce à cette mesure, près de 2 millions de petites retraites vont être augmentées.
Ok. Ça, c'est vrai que c'était une demande des Républicains.
De la concertation et notamment des dernières discussions qu'Olivier Dussopt et moi-même avons menées la semaine dernière. Nous allons donc travailler à ce dispositif dans les prochains jours avec les parlementaires de la majorité, mais aussi des groupes qui, au-delà de la majorité, portent cette mesure et pourraient soutenir la réforme. Je pense en particulier aux Républicains. Notre objectif est de pouvoir l'intégrer au projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres le 23 janvier. Enfin, le dernier progrès...
C'est une loi de financement ou pas ?
Concerne l'emploi des seniors. Et c'est là aussi un combat auquel je crois profondément. Nous sommes l'un des pays d'Europe où la part des personnes de 60 à 64 ans qui travaillent est la plus faible.
Mmh.
Cela nous conduit à nous priver de leur expérience, de leurs compétences précieuses et de leur contribution à notre richesse nationale. C'est aussi trop souvent le fait d'une pratique abusive et, disons-le, discriminatoire qui consiste à faire partir les salariés quelques années avant leur retraite. Les entreprises doivent faire leur place aux personnes proches de la retraite et veiller à une meilleure qualité de vie au travail. Il est temps que les employeurs prennent en main ce sujet. Un index sera créé sur la place des salariés en fin de carrière. Cet index sera simple, il sera public. Il permettra de valoriser les bonnes pratiques et de dénoncer les mauvaises.
Ah, il y aura du name and shame sur les entreprises. Les entreprises qui dégagent les vieux trop tôt.
Plus de 1000 salariés dès cette année.
Ouais, okay.
Et en 2024 pour celles de plus de 300 salariés.
D'accord.
Nous
allons créer un index public
plus de
des boîtes qui. Okay.
À la transition entre l'activité et la retraite. Nous allons donc assouplir le dispositif de retraite progressive pour les salariés et l'étendre à la fonction publique. Nous permettrons ainsi à ceux qui le souhaitent de passer à temps partiel 2 ans avant l'âge légal de départ en liquidant une partie de leur retraite.
Oui, d'accord.
Nous allons aussi rendre le cumul emploi...
Ça sera dans la fonction publique aussi, d'accord.
...et créateur de droits nouveaux. Replacer les seniors au cœur des entreprises et mieux maîtriser sa fin de carrière, ce sont aussi des progrès majeurs permis par notre projet. Olivier Dussopt y reviendra plus en détail dans un instant. Mesdames et messieurs, avant de laisser la parole au ministre, j'aimerais revenir sur quelques points. Ce projet suscitera des commentaires, des débats et des oppositions.
Oui.
Mais je souhaite d'ores et déjà dire que la confrontation d'idées peut se faire sans désinformation, sans agiter les peurs. Alors je le dis clairement, non, ce projet ne se mettra pas en œuvre du jour au lendemain. L'âge de départ sera relevé progressivement sur une durée de 8 ans.
Là, elle parle aux manifestants, hein, clairement.
Non, l'âge d'annulation de la décote ne changera pas. Il restera à 67 ans. C'est une protection pour les plus modestes, pour celles et ceux qui ont eu des carrières hachées ou incomplètes, le plus souvent des femmes. Non, ce projet ne concerne pas les retraités actuels. Le montant des pensions sera toujours indexé sur l'inflation. Le seul changement pour eux, c'est une augmentation de pension pour près de 2 millions de petites retraites. Mesdames et messieurs, je viens de vous présenter les grandes orientations de notre projet pour les retraites. Dans 2 semaines, le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative qui le porte sera présenté en Conseil des ministres, puis débattu au Parlement. Nous voulons le dialogue, nous l'avons montré ces derniers mois, nous sommes ouverts à la discussion, nous la voulons et nous savons ce qu'elle apporte. Cette présentation n'est donc pas un point final, nous sommes prêts à faire encore évoluer notre projet et cela sera possible grâce à un débat parlementaire loyal et constructif. Je vous remercie et je donne la parole à Bruno Le Maire.
Donc on va écouter Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui va présenter la partie économique du truc, donc l'absence d'augmentation d'impôts. On ne touche pas au montant des cotisations, madame, pour ne pas alourdir le coût du travail.
Mesdames, messieurs, comme vous le savez, comme l'a rappelé la Première ministre, la France possède un des systèmes de retraite les plus généreux au monde. C'est une force et c'est une fierté pour l'ensemble de nos compatriotes. Ce système repose sur la cohésion entre les générations, entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent plus. Il exprime donc ce que nous voulons comme nation.
C'est des journalistes, hein, dans la salle.
La solidarité plutôt que le chacun pour soi. Mais compte tenu du vieillissement de la population, la Première ministre vient de rappeler les chiffres, l'équilibre financier de ce régime des retraites est menacé. C'est un fait. C'est un fait incontestable.
Il est menacé si on touche à rien.
Ce régime accusera 13,5 milliards d'euros de déficit en 2030. C'est un fait et c'est aussi un problème. Un problème grave. Certains prétendent que ce déficit serait négligeable. Mais aucun déficit n'est négligeable. Et chaque euro compte pour un État qui a 3 000 milliards d'euros de dette. La seule bonne méthode pour préserver notre modèle social, c'est donc de traiter chaque problème séparément, avec constance, avec détermination, avec courage. Il ne peut pas y avoir de solidarité à crédit. Pour que nous puissions combler ce déficit et avoir un régime de retraite par répartition, il y a dans le fond, comme l'a rappelé Elisabeth Borne, 3 options. La première option, c'est de baisser les pensions des retraités. Ce serait profondément injuste, c'est donc évidemment exclu. La deuxième option, qui est défendue par un certain nombre de personnes,
à gauche,
c'est
notamment
d'augmenter les cotisations sociales, ce qui revient à baisser les salaires nets de nos compatriotes, ce qui est un peu surprenant dans une période où chacun réclame au contraire plus de salaires nets. Certains nous expliquent que cette augmentation de cotisations sociales serait indolore. Alors, tout dépend de ce qu'on entend par indolore, mais à nos yeux, ça n'est pas indolore. Au contraire, une augmentation de 1 point de cotisation sociale, c'est ce qui est nécessaire pour parvenir au même objectif, l'équilibre financier du régime des retraites en 2030.
Ouais.
Et une augmentation de 1 point de cotisation retraite, c'est 440 euros de revenus nets moyens en moins par an
ouais.
en 2030.
Si c'est impacté à 100% sur le salaire net.
440 euros d'impôts supplémentaires par an sur leur salaire.
C'est
donc une option qui est également...
Si les employeurs l'impactent à 100%, mais ça peut être négociable, ça aussi.
La seule option efficace, c'est celle que vient de présenter la Première ministre Elisabeth Borne, une réforme du système de retraite pour travailler plus longtemps. De quels chiffres parlons-nous ? Pour parvenir à l'équilibre du régime de retraite, nous devons donc trouver, j'ai donné le chiffre, 13,5 milliards d'euros en 2030. La réforme qui vient d'être présentée par la Première ministre apportera 17,7 milliards d'euros en 2030 aux caisses de retraite. Et je confirme que chaque euro économisé ira bien aux caisses de retraite et uniquement aux caisses de retraite. Avec cette marge de manœuvre que nous avons dégagée, de l'ordre de 4,2 milliards d'euros, nous allons pouvoir financer les mesures qui viennent d'être présentées par la Première ministre. 17,7 milliards d'euros rapportés par la réforme, 13,5 milliards pour revenir à l'équilibre. Il reste donc 4,2 milliards d'euros pour financer des mesures de justice. Les retraites des plus fragiles, en raison de leur inaptitude ou de leur invalidité, qui pourront continuer de partir à la retraite à 62 ans, c'est un coût de 3,1 milliards d'euros. Les mesures sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur la revalorisation des petites pensions pour les nouveaux retraités, c'est un coût de 1,7 milliard d'euros. Nous avons donc un coût total pour ces mesures complémentaires de 4,8 milliards d'euros.
Et elles sont financées comment, du coup ?
Nous avons des recettes de 4,2 milliards. Il manque donc 600 millions d'euros, si je calcule bien.
Ah oui, avec les recettes, oui, d'accord.
600 millions d'euros seront comblés par un transfert des cotisations de la branche accident du travail, qui est excédentaire, vers la branche retraite, qui est déficitaire. Cela ne coûtera rien, ni aux entreprises, ni aux salariés, mais permettra de boucler l'équilibre financier à l'euro près de la régime, du régime des retraites en 2030.
Okay.
Cela permettra de garantir l'équilibre financier et donc le principe de solidarité de notre système de retraite par répartition. Je voudrais terminer comme... par un dernier point sur l'emploi des seniors. Pour vous dire que cette réforme présente, au-delà de l'équilibre financier, au-delà des mesures de justice qui ont été présentées, un avantage majeur qui est de favoriser l'emploi des seniors. Car quand on regarde l'économie française et le marché du travail en France, il y a un point révoltant. C'est le taux d'emploi des seniors. Et je pèse mes termes, c'est révoltant que la France ait un des taux d'emploi les plus faibles des plus de 55 ans, de l'ordre de 56%, là où il atteint 70% en Allemagne ou en Suède. C'est une perte de compétences, c'est un gâchis d'expérience, c'est un gâchis d'humanité, c'est un gâchis collectif.
Et donc que veut faire le gouvernement ?
De ce point de vue, notre réforme augmentera le taux d'emploi des seniors qui retarderont leur départ à la retraite. C'est ce que nous avons observé lors de la réforme de 2010. Le taux d'emploi des seniors était alors de 40%. Il est passé avec cette réforme à 56%. La réforme que nous vous présentons permettra donc d'avoir un taux d'emploi des seniors plus élevé, de profiter de leur expérience, de leur savoir-faire.
Ah oui, donc c'est le principe de départ anticipé sur le mi-temps.
Je laisse la parole à Olivier Dussopt.
Ok. Olivier Dussopt, c'est le ministre du Travail. C'est lui qui va défendre le projet de réforme sur les bancs de l'Assemblée.
Madame la Première ministre, mesdames et messieurs, la réforme d'équilibre et de responsabilité qui vous est présentée aujourd'hui est une réforme de progrès et une réforme de justice. Comme l'a dit la Première ministre il y a un instant, c'est avant tout le fruit d'une concertation menée sans relâche depuis des mois avec les partenaires sociaux, avec les forces politiques de tout le pays pour avancer, trouver un certain nombre de solutions. Cette méthode de concertation est la méthode du gouvernement. C'est celle aussi que je m'applique depuis 2017. Dialoguer, écouter, identifier les points d'accord, respecter les différences. Je l'avais fait en matière de réforme de la transformation de la fonction publique comme à l'occasion des différents exercices budgétaires. Cette concertation aura donc été...
Il était ministre du budget par le passé, effectivement.
...par tous les partenaires sociaux, comme par toutes les forces politiques. Et nous avons mené cette concertation, en dépit de ceux qui nous promettaient un mur infranchissable, des chaises vides. Il n'en a rien été. Et nous avons pu, pendant des dizaines d'heures et des dizaines de réunions, pouvoir construire une réforme, la Première ministre l'a dit, différente aujourd'hui de ce qu'elle aurait été il y a 3 mois. Il y a eu, et il y a évidemment, des désaccords, ça n'est pas un secret. Il y a aussi des convergences. Et suffisamment de convergences pour que nous puissions vous présenter aujourd'hui des mesures qui répondent à des attentes de longue date, qui corrigent des injustices et qui accompagnent les nouvelles évolutions. À ce titre, et quelle que soit leur position, je tiens à mon tour à remercier les organisations syndicales, les organisations patronales, les groupes parlementaires, qui ont tous contribué à construire ce dialogue, constructif, parfois un peu épineux, mais toujours constructif et utile. J'ai sans cesse rappelé le double objectif du gouvernement pour illustrer l'utilité de cette concertation, à la fois améliorer notre système de retraite et en garantir l'équilibre. Améliorer sans équilibrer serait irresponsable et équilibrer sans améliorer serait injuste. Je souhaite aussi dire que ce temps de travail, de dialogue, d'échange, parfois de controverse, a été utile pour préciser un certain nombre de propositions, de priorités que nous avions d'ores et déjà annoncées. Il y a 3 mois, un peu plus de 3 mois, nous n'aurions pas été en mesure de présenter un projet aussi précis, aussi opérationnel, pour donner corps justement à ces grands principes, à ces priorités, priorités du gouvernement, priorités aussi d'acteurs sociaux. La réforme que nous présentons est donc d'abord une réforme juste, puisqu'en face des décisions toujours lucides, parfois difficiles, qui nous permettent de préserver et d'équilibrer notre système, nous proposerons des mesures d'accompagnement fortes pour les plus fragiles d'entre nous. Nous travaillerons donc plus longtemps, mais pas tout le monde, pas de la même manière, pas au même rythme. Et nous apportons par cette réforme une réponse, des réponses très concrètes à toutes celles et ceux qui ont connu des carrières longues, qui ont connu aussi des carrières difficiles. Tout d'abord, la réforme permettra donc de mieux prendre en compte les carrières longues, en renforçant considérablement le dispositif existant, la Première ministre l'a dit dans son propos. Au-delà des carrières longues actuelles qui permettent de partir 2 ans avant l'âge légal avec 5 trimestres validés avant 20 ans, nous apporterons une réponse aux carrières débutées très tôt pour permettre aux travailleurs ayant validé 5 trimestres avant 18 ans de partir 4 années avant l'âge légal d'ouverture des droits. Concrètement, une personne qui aurait commencé à travailler en tant qu'apprenti le jour de ses 16 ans, par exemple, comme mécanicien, comme boulanger, pourra partir à 60 ans. Les assurés qui ont débuté leur carrière avant 16 ans continueront, eux, de partir dès 58 ans, dans des conditions facilitées par rapport à aujourd'hui.
Donc là, il reprécise ce qu'a déjà dit Elisabeth Borne sur le fait que les personnes qui ont des carrières longues, ça faisait partie des points sur lesquels le gouvernement voulait négocier avec les Républicains, avec les partenaires sociaux. Le gouvernement, il sait très bien qu'il est pris dans une tenaille. D'un côté, il a à sa gauche des manifestations qui promettent d'être très suivies dans la rue à partir de la fin du mois, dans 10 jours. Et du côté des Républicains, il sait qu'ils ont besoin d'obtenir le vote des Républicains et pour ça, ils ont besoin de faire des concessions, notamment sur les carrières longues, sur le travail des femmes, sur les minimums vieillesse. Et c'est ce qu'ils ont annoncé avec les plus de 4 milliards d'euros, les près de 5 milliards d'euros d'augmentation
en situation
pour les personnes âgées d'ores et déjà à la retraite.
Pourront toujours partir à 62 ans et cela permettra à 100 000 personnes par an de partir à taux plein avant le nouvel âge légal de 64 ans. Les victimes d'accidents du travail, les victimes de maladies professionnelles pourront aussi partir plus tôt. Les travailleurs en situation de handicap, par exemple, pourront continuer à partir à la retraite dès 55 ans. Et les travailleurs exposés à l'amiante voit maintenu le droit à un départ anticipé à partir de 50 ans. Le troisième point que je souhaite aborder devant vous concerne notre volonté de rendre les retraites plus justes en répondant à celles et ceux qui ont été confrontés à la pénibilité et à l'usure professionnelle. Nous plaçons donc la prévention de l'usure professionnelle au cœur de la réforme, d'abord en levant l'ensemble des verrous du compte professionnel de prévention, le CDP. Oui. Nous allons abaisser plusieurs seuils pour permettre de rendre plus facile l'acquisition de droits. Et nous créerons un congé de reconversion comme nouvelle utilisation du CDP pour mettre fin à l'enfermement dans des métiers difficiles. Ainsi, nous allons par exemple abaisser de 120 à 100 le nombre de nuits travaillées par an pour obtenir des points de CDP. Nous allons aussi mieux protéger les salariés que l'on qualifie de polyexposés, celles et ceux qui exercent un métier exposé à plusieurs des 6 critères de pénibilité du CDP, mais qui ont parfois du mal à valider par l'exposition particulière qu'ils connaissent les indicateurs nécessaires pour 1 ou 2 des critères alors qu'ils sont exposés à plusieurs d'entre eux de manière partielle. Très concrètement, une caissière de supermarché ou un gardien de nuit vont acquérir plus facilement des points sur leur compte au titre du travail répétitif pour les premiers et du travail de nuit pour les seconds. Ils pourront, je le disais il y a un instant, bénéficier d'un nouveau droit, d'une nouvelle utilisation du CDEP avec la création d'un congé de conversion professionnelle, rémunéré à 100%, financé en termes de formation, pour s'orienter vers un métier moins exposé.
Ah, sur les réorientations, oui.
Absolument convaincu avec la première.
Oui, sur la formation tout au long de la vie, mais ça c'est pour le coup assez classique aussi.
La possibilité d'avoir une deuxième carrière, d'exercer un nouveau métier, est le meilleur moyen de prévenir l'usure professionnelle pour les salariés qui sont le plus exposés, et ainsi de permettre...
Donc les personnes qui ont été, en gros les personnes qui ont bossé dans un métier qui les a beaucoup exposés à la pénibilité jusqu'à l'âge de, je sais pas moi, 40-45 ans, si à 45 ans ils décident de changer de boulot et d'évoluer, ils pourront avoir un congé formation qui sera 100% payé pour évoluer vers un autre métier peut-être moins pénible.
La prévention de l'usure professionnelle, la prévention de la pénibilité, nous allons demander aux branches professionnelles de négocier des accords de prévention de l'usure professionnelle pour les métiers identifiés comme tels, comme difficiles, par les instances de la sécurité sociale. Ce fonds sera doté d'1 milliard d'euros sur le quinquennat. C'est 1 milliard d'euros contre la pénibilité. Ça aussi, c'est une avancée forte et une avancée qui est financée dans le cadre de la réforme que nous vous présentons aujourd'hui. Nous voulons aussi, pour compléter ce dispositif dans ces métiers particuliers, particulièrement exposés à des difficultés, nous appuyer sur la loi Santé au travail qui a été votée à l'été 2021 et ainsi renforcer le suivi individuel médical pour permettre à celles et ceux pour lesquels l'usure aurait malheureusement fait son œuvre de continuer à bénéficier de départs anticipés, de partir ainsi plutôt à la retraite. J'en viens à mon tour à la question du travail des seniors, autre sujet de la concertation, autre sujet sur lequel nous souhaitons des avancées. Cette réforme ne serait pas juste si elle laissait les seniors sans réponse. C'est à la fois une condition de réussite de la réforme, mais aussi une condition pour atteindre l'objectif de plein emploi que nous nous sommes collectivement fixés. Nous allons donc faciliter les transitions entre l'activité et la retraite en élargissant l'accès à la retraite progressive, à la fois en l'ouvrant à la fonction publique, mais aussi en facilitant l'accès à cette retraite progressive pour les salariés. Nous allons aussi rendre plus facile le cumul emploi-retraite, en déplafonnant ses conditions d'exercice. Nous allons faire en sorte qu'il soit créateur de droits. Ainsi, un retraité qui exerce un emploi en parallèle de sa retraite pourra demander une revalorisation de sa pension.
Oui, c'est le cumul emploi-retraite. Ah oui, du coup, tu vas avoir des cotisations de plus et donc tu vas pouvoir augmenter ta pension de retraite. Ouais, d'accord.
En même temps, nous allons ouvrir une négociation.
D'ailleurs, les augmentations de pension de retraite, le gouvernement propose que les personnes âgées l'utilisent pour s'abonner à la chaîne Twitch de Jean Massier pour seulement 4$ par mois ou alors avec leur compte Amazon Prime, c'est gratuit, ça fait payer Jeff Bezos.
Demander à nos concitoyens de travailler plus longtemps, demander aux seniors de rester plus longtemps dans l'emploi ne pourra pas se faire sans l'engagement des entreprises. C'est la raison pour laquelle nous allons créer un index senior, pour que les entreprises puissent prendre toute leur part dans le maintien d'emploi des salariés âgés et renforcer le dialogue social en la matière. Il s'agit de mesurer l'implication des entreprises à partir d'une certaine taille, en tenant compte des caractéristiques des branches, en permettant aux branches d'adapter un certain nombre d'indicateurs pour l'emploi des seniors, de manière à ce que nous puissions ainsi mesurer les évolutions et les implications de chacun. Toutes les entreprises de plus de 300 salariés devront renseigner en toute transparence cet index, chacun des indicateurs tels qu'ils seront définis à l'issue d'une concertation interprofessionnelle. Le refus de renseigner l'index sera un motif de sanction. Ensuite, lorsque les résultats de l'index seront connus, nous souhaitons que l'emploi des seniors devienne un outil, un instrument, un objet obligatoire de la négociation sociale dans les entreprises et que cette obligation soit renforcée en fonction des résultats de l'index pour ainsi améliorer cette situation. Enfin, je souhaite dire qu'augmenter la pension minimale est évidemment notre priorité. La Première ministre l'a dit, nous allons revaloriser dès le mois de septembre 2023 de 100 euros par mois les retraites les plus basses pour atteindre ainsi près de 1200 euros par mois pour une carrière complète cotisée au SMIC. Cette mesure, la Première ministre l'a dit aussi, sera indexée pour que, mois après mois, année après année, ce départ avec au moins 85% du SMIC soit garantie aux salariés qui demanderont la liquidation.
D'accord, donc ce sera indexé sur l'inflation, donc on verra... pas sur l'inflation, sur le SMIC.
Retraité sur 4.
Oui, comme le SMIC est indexé sur l'inflation, tu me diras.
Ce seront des femmes.
C'est pareil.
Cette mesure de justice s'appliquera aux salariés, mais aussi aux artisans commerçants, aux agriculteurs, et elle aura un effet fort pour tous les salariés qui auront connu une carrière complète avec des rémunérations principalement situées soit dans les deux premiers déciles de revenus, soit qui auront connu des carrières hachées, parfois du fait de la précarité. Nous allons aussi engager cette revalorisation pour les pensions de retraite actuelles, les pensions des retraités actuelles, pardonnez-moi, mais la Première ministre l'a dit, ça nécessite quelques travaux complémentaires. Enfin, cette réforme de justice est une réforme d'équité. Améliorer la solidarité au sein des générations, c'est aller au bout de la promesse faite.
Non, le SMIC n'est pas vraiment indexé sur l'inflation. Enfin, il n'est plus maintenant, mais il est revalorisé annuellement, mais en dessous de l'inflation maintenant. Donc oui, vous avez raison.
C'est aussi avoir le courage que personne n'avait eu jusqu'alors. Les régimes spéciaux sont devenus archaïques à mesure que la réalité des métiers a évolué. Et ainsi, les régimes spéciaux sont aussi devenus progressivement plus injustes. Nous allons donc fermer les régimes spéciaux pour ce qui concerne l'affiliation au régime général d'assurance vieillesse.
Et que pour les primo-arrivants, c'est ça ?
Pour les RATP, pour les industries électriques et gazières, pour les clercs et les employés de notaire, pour la Banque de France et le Conseil économique, social et environnemental. Par contre, l'équité ne doit pas se faire contre le contrat social. Nous respecterons à la lettre ce contrat social. Ainsi, les régimes spéciaux, pour ce qui concerne l'assurance retraite, seront fermés pour les nouveaux embauchés, uniquement pour les nouveaux embauchés, à compter du 1er septembre 2023.
Okay.
Par contre, l'intégralité des salariés relevant de ces régimes spéciaux auront à voir aussi un allongement de leur durée d'activité dans un calendrier, une période de convergence.
Donc si vous voulez un régime spécial de retraite, vous avez jusqu'à septembre prochain pour vous faire embaucher. Attention, hein.
L'équité,
va falloir aller vite,
permettre aux indépendants d'avoir les mêmes droits que les salariés face au montant des prélèvements. Nous voulons leur garantir l'accès à la pension minimum, à la retraite minimum. Nous voulons aussi engager la réforme de l'assiette sociale pour la concrétiser en 2024, en veillant à ce que les indépendants qui réalisent une carrière complète bénéficient ainsi pleinement de cette garantie de retraite minimale. L'ensemble de ces mesures de justice et d'équité permettent donc de concrétiser des avancées attendues par les Français. Elles permettent d'accompagner la mise en œuvre des mesures nécessaires tout en rétablissant l'équilibre financier du système de retraite. Je suis très fier et nous sommes très fiers au gouvernement de notre système par répartition. La Première ministre l'a souligné. C'est un joyau et que nous voulons préserver. Je suis aussi convaincu que cette réforme nous permettra de l'améliorer en profondeur. Pour tous les Français qui ont eu un accès difficile au travail au cours de leur vie.
Les gens dans la salle, ce sont des journalistes qui préparent l'écriture de leurs articles
devons offrir
de manière à ce que Jean Massier puisse les lire dans sa revue d'actu sur Twitch.
Travailler plus, oui, mais chacun selon ce qui lui est effectivement possible et en protégeant les plus fragiles. C'est l'essence de cette réforme de justice. Voilà donc le fruit des concertations menées depuis plusieurs mois avec les partenaires sociaux que nous avons écoutés, que nous avons entendus. Nous avons voulu aussi lever un certain nombre d'irritants, améliorer des situations avec certaines difficultés qu'il fallait régler. C'est ainsi et pour cette raison que nous avons décidé de ne pas poursuivre, par exemple, le chantier d'unification du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco. Par ailleurs, et je termine par là, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, tel que l'a dit la Première ministre, sera présenté au Conseil des ministres du 23 janvier. Il contiendra l'essentiel des mesures de cette réforme. Mais cette réforme dépassera toutefois ce seul vecteur, puisque certaines mesures relèvent du niveau réglementaire.
Voilà.
Et seront l'objet de concertations approfondies avec les partenaires sociaux dans le cadre traditionnel.
Donc ce sera bien un PLFRSS qui sera présenté.
À la meilleure prise en compte du travail de nuit dans le cadre du C2P, ou encore à l'élargissement de l'accès à la retraite anticipée des travailleurs exposés.
Ouais, donc ça, c'est du réglementaire. Donc il n'y aura pas un deuxième projet de loi dans la foulée, en fait.
De la voie réglementaire.
Tout sera dans le même. Donc ils veulent forcer.
Dans le texte.
Mais le gouvernement veut forcer les Républicains à voter la réforme dans un package global. Ils ne veulent pas couper en deux la réforme.
Je pense aussi à la modernisation des droits familiaux. Nous souhaitons que le Conseil d'orientation des retraites puisse engager un travail d'amélioration, d'uniformisation, qui donnera lieu ensuite à des décisions réglementaires. Certains désaccords persistent, ne sont pas effacés. Mais nous savons aussi, je sais aussi qu'avec les mesures que je viens de vous présenter, nous répondons à beaucoup des attentes des partenaires sociaux telles qu'elles ont été exprimées dans le cadre de la concertation. Ce sont des mesures fortes que nous avons pensées avec la Première ministre, avec le même souci de justice et d'efficacité, et en gardant toujours en tête la volonté de protéger les plus fragiles. Je vous remercie, et je passe la parole à Stanislas Guérini.
De rien, de rien, de rien. Stanislas Guérini, il fait quoi maintenant ? Parce qu'avant, c'était le patron de La République En Marche.
Messieurs les ministres.
Maintenant, il est ministre.
Messieurs, je vais maintenant vous présenter les éléments spécifiques à la fonction publique du...
Il est ministre de la fonction publique.
Des retraites.
D'abord, logique.
Important de rappeler que cette réforme est fondée sur un principe clair d'équité, celui de la symétrie des paramètres entre le régime général et le régime de la fonction publique. Cela veut dire que le recul progressif...
Je vous débrief après, dès que c'est fini, promis.
D'une part... et que l'accélération du rythme de majoration de la durée d'assurance, d'autre part, telle qu'annoncée à l'instant par la Première ministre, seront transposées de façon strictement identique au régime applicable aux fonctionnaires sédentaires et catégories actives. Elles s'appliqueront donc à l'ensemble des agents publics sans distinction. Nous demandons aux agents publics des trois versants de travailler un peu plus longtemps. C'est le sens même de la solidarité contributive.
Trois versants, c'est la fonction publique étatique, territoriale et hospitalière.
Les caractères propres au régime de la fonction publique demeurent inchangés. D'abord, le mode de calcul des pensions reste fixé sur la base des 6 derniers mois. J'ajoute également qu'il ne repose que sur la rémunération indiciaire. Cela veut dire que le régime indemnitaire, pour parler clairement des primes des fonctionnaires, n'ouvre pas de droit à la retraite.
C'est le principe d'une prime, oui.
Le taux de remplacement des agents du public est d'ailleurs strictement identique au taux de remplacement des salariés du secteur privé. Deuxième caractéristique fondamentale qui demeure inchangée, la prise en compte de la pénibilité pour la fonction publique continue à se faire par le régime des catégories actives. Pour rappel, les catégories actives, c'est ce qui permet à certains métiers de la fonction publique d'avoir un âge d'ouverture des droits anticipé de 5 ans à 10 ans par rapport au droit commun, sous réserve d'avoir 27 années de service pour un policier, par exemple, ou 17 années de service pour un aide-soignant ou une aide-soignante, par exemple. Comme indiqué par la Première ministre, ces durées de service resteront inchangées. Voilà pour les éléments principaux de la réforme. Évolution symétrique des paramètres, principale caractéristique inchangée. Sur ce fondement, le gouvernement a décidé de porter des mesures de cohérence et d'équité. Je veux le souligner, elles sont le fruit des concertations, Olivier Dussopt l'indiquait à l'instant, que nous avons eues avec les organisations syndicales jusque dans les derniers jours. Ces mesures porteront sur 3 points principalement. Tout d'abord, faciliter la transition entre la vie professionnelle et la retraite et permettre aux agents, aux employeurs publics de mieux organiser les fins de carrière. À cet effet, nous portons 2 mesures. D'abord, l'extension aux agents publics, aux fonctionnaires de la retraite progressive. C'est ce qui permettra, par exemple, à un agent d'entretien d'espace vert de partir à 62 ans de se mettre à temps partiel à partir de 62 ans, tout en touchant par anticipation une partie de sa retraite et donc de préserver sa rémunération. Deuxième mesure, la possibilité pour un agent de demander à prolonger sa carrière au-delà de la limite d'âge actuelle, ce qui n'était aujourd'hui pas possible dans la fonction publique, même lorsqu'un agent...
Là, clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Stanislas Guérini, il est en train d'éteindre un incendie avant même que l'incendie se déclenche. Il essaye de diviser le camp social en disant aux fonctionnaires, vous inquiétez pas, on change très peu de choses pour vous, vous allez travailler plus longtemps, mais petit à petit.
Deuxième série de mesures.
Donc, c'est pas la peine d'aller manifester, quoi. En gros.
De mieux prendre en compte la pénibilité en favorisant les reconversions professionnelles. D'abord, pour assurer la portabilité des droits dont bénéficient les agents des catégories actives. Concrètement, aujourd'hui, un gardien de prison qui a exercé son métier pendant 30 ans et qui change de métier dans la fonction publique perd absolument tout le bénéfice ouais. de sa durée de service et donc la possibilité d'un départ anticipé. Ouais. Demain, avec cette réforme, ce même agent verra le bénéfice de ses années de service dans son métier pénible, définitivement acquis, quelle que soit son évolution professionnelle,
d'accord.
qui ouvre des possibilités.
À condition qu'il reste dans le privé, on est d'accord. Dans le public, pardon.
Carrière. Deuxième mesure, tout aussi importante, lorsqu'un contractuel qui exerce un métier pénible, comme aide-soignant par exemple, est titularisé dans la fonction publique, il pourra à présent comptabiliser les années effectuées pour bénéficier d'un droit à la retraite anticipé. C'est une avancée
d'accord.
réelle pour les contractuels.
Et le calcul reste sur les 6 derniers mois pour les titulaires, en tout cas.
À la rejoindre.
Okay.
Troisième et dernière série de mesures, la situation spécifique des professionnels des établissements de santé et des établissements médico-sociaux de la fonction publique hospitalière comme de la fonction publique territoriale se verra prise en compte avec l'ensemble des parties prenantes. Nous avons l'ambition d'accompagner ces établissements dans la conduite, dans le financement d'actions de prévention et de dispositifs d'organisation et d'aménagement du travail des personnels concernés, notamment en deuxième partie de carrière. À ce titre, un fonds de prévention de l'usure professionnelle sera créé et pérennisé auprès de l'assurance maladie. Une mission sera confiée à des personnalités qualifiées pour identifier, pour concerter avec les parties prenantes, la nature, les actions à mener par ce fonds qui doit favoriser une amélioration.
Oui, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que là, vous êtes en train de regarder la conférence de presse de présentation de la réforme, mais elle n'est pas encore adoptée, la réforme. Là, il vous présente la copie du gouvernement.
Avec les annonces portées.
Dans 10 jours, le gouvernement va adopter cette réforme. Mais ça ne sera pas du tout la fin du processus, au contraire, ce sera le début de l'examen au Parlement, début février.
Des travaux.
Et entre-temps, il y aura des manifs, etc. Donc là, il faut bien comprendre que tout ce qu'ils vous ont présenté aujourd'hui va peut-être évoluer en fonction du travail parlementaire, en fonction des manifs, etc.
Pour viser à développer des nouveaux instruments collectifs de renforcement du maintien dans l'emploi pour favoriser les transitions professionnelles ainsi que prévenir les risques. Je veux conclure en insistant sur le fait que cette réforme souligne les enjeux fondamentaux de la gestion des carrières, des parcours professionnels, des conditions de travail qui seront au cœur de la réforme que je porterai en 2023 sur l'attractivité de la fonction publique. Je vous remercie. Je cède la parole à Madame la Première Ministre.
Elisabeth Borne qui va reprendre la parole. Est-ce que ce sera pour répondre à quelques questions des journalistes? Ce serait bien.
Mesdames et messieurs, je mesure ce que travailler plus longtemps signifie pour beaucoup. Notre système de retraite par répartition est un bien précieux. Il est l'un des fondements de notre modèle social. C'est une spécificité dont nous sommes fiers et un symbole de la nation. Nous sommes déterminés à le protéger, déterminés à préserver la solidarité entre les générations. Notre projet, c'est agir pour les retraités actuels et pour leur pouvoir d'achat. C'est préserver notre système par répartition et le rendre plus juste pour les actifs d'aujourd'hui qui seront les retraités de demain. C'est donner l'assurance aux plus jeunes qu'ils bénéficieront d'une retraite. Trop d'entre eux pensent qu'ils n'auront pas de retraite et qu'ils devront compter...
C'est vrai ça. Il y en a plein parmi vous qui pensent que vous n'aurez jamais de retraite.
Je ne m'y résigne pas. Réussir ce projet, c'est montrer que le collectif a du sens, que nous sommes capables de veiller à la solidarité entre nous et entre les générations. Réussir ce projet, c'est aussi montrer que lorsque les analyses et les faits sont nombreux et étayés, et que le dialogue social et politique a été mené, notre pays est capable de se transformer pour préserver son modèle social. C'est tout le sens de ce projet juste, équilibré et porteur de progrès. Je vous remercie. Et nous allons maintenant, avec les ministres,
répondre à super. Vos questions. Donc il y a les journalistes qui ont posé des questions. Hop. 49.3, pas 49.3.
Bonsoir Madame la Première Ministre, bonsoir. C'est la Bougriou pour TF1 et LCI. L'ensemble des organisations syndicales, y compris la CFDT, ont réaffirmé qu'ils se mobiliseraient pour lutter contre le report de l'âge légal à la retraite. Est-ce que vous voyez cela comme un échec? Et est-ce que vous reverriez votre copie si la mobilisation était importante ces prochaines semaines?
Alors, il ne nous a pas échappé, en effet, que l'ensemble des organisations syndicales sont opposées à un décalage de l'âge légal de départ à la retraite. C'est une position qu'ils ont portée. Je pense notamment que ça a fait l'objet de débats dans les congrès de certains. Donc moi, j'en prends acte. Mais notre responsabilité, je le redis, la responsabilité du gouvernement, c'est de préserver notre système de retraite par répartition.
Donc à ce stade, on lâche rien.
Je voudrais souligner qu'au-delà de ce désaccord, sur un point dont je ne dis pas qu'il est mineur, qui est important, nous avons considérablement avancé avec les organisations syndicales sur l'ensemble des mesures que nous venons de vous présenter. Et je pense que c'est important de se dire que ce que nous vous présentons, c'est un projet global. Ça n'est pas uniquement une question de décalage de l'âge de départ à la retraite, c'est un ensemble de réponses pour assurer...
C'est quand même l'élément central, mais...
...notre système de retraite, pour tenir compte des situations particulières. C'est aussi un projet qui vise à donner de nouveaux droits, qui est porteur de progrès et Ces nouveaux droits, ces progrès, nous les avons construits avec les organisations syndicales. Donc moi, je vais continuer à vouloir convaincre nos interlocuteurs, à vouloir convaincre surtout les Français que nous proposons un projet de justice, d'équilibre et de progrès.
Madame la Première ministre, bonjour. Anne-Sora Dubois, BFM TV. Je vais vous citer les propos d'un responsable politique tenu en 2019. Franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge de départ. Bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va me dire maintenant, il faut passer à 64 ans. Vous ne savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois ne sont plus bons pour vous. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux
Macron,
gens,
ça.
Mes bons amis, travailler plus longtemps. Propos tenu par le chef de l'État Emmanuel Macron en 2019.
Je me souviens.
Qu'est-ce qui a changé en 3 ans? Est-ce que vous pensez qu'un index sera suffisant pour qu'il y ait un taux d'emploi des seniors qui augmente? Et encore une fois, qu'est-ce
C'était en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier à l'époque.
Les raisons ne sont plus valables aujourd'hui.
Voilà, qu'est-ce qui a changé depuis?
Alors, peut-être dire qu'on va prendre les questions par 3, là, pour les prochaines. Je vais répondre à votre question, hein. Je pense qu'on doit agir, évidemment, sur cette question de l'emploi des seniors. Moi, je l'ai dit, je ne me satisfais pas d'avoir des plans de départ volontaires, d'avoir des ruptures conventionnelles collectives qui font l'objet d'accords, il faut le dire souvent, entre les employeurs et l'ensemble des représentants des salariés et qui consistent à faire partir les salariés à quelques années de leur retraite. C'est un sujet que nous sommes déterminés à prendre à bras-le-corps, mais que les partenaires sociaux, les organisations patronales et syndicales doivent aussi prendre à bras-le-corps. Et le ministre Bruno Le Maire l'a dit tout à l'heure, il y a une forme d'effet mécanique quand on décale l'âge de départ à la retraite. On sait que ces départs qui se font 2 ans, 3 ans avant l'âge légal de départ se décalent d'autant, donc ça contribue à augmenter le taux d'emploi des seniors et donc la place des seniors dans les entreprises. Mais vraiment, je peux vous assurer que nous sommes déterminés à poursuivre les échanges. D'abord, à porter les mesures qui figurent dans ce projet de loi pour donner des repères, je dirais, aux négociations qui doivent se tenir en entreprise sur l'emploi des seniors. Mais par ailleurs, voilà, continuons à réfléchir ensemble avec les partenaires sociaux.
Oui. Donc elle répond sur l'emploi des seniors en disant ce que disait Macron, c'est que c'est compliqué de bosser pour les seniors. Et nous, notre job, c'est de faire en sorte qu'ils puissent continuer à travailler parce qu'on a le plus bas taux d'emploi des seniors d'Europe.
Des échos. Si vous n'arrivez pas, malgré vos efforts, à obtenir une majorité à l'Assemblée, est-ce que vous serez prête à recourir à l'article 49.3 ? Merci.
Alors.
Et bonjour Madame la Première Ministre, Simon Le Baron pour France Inter. Même si vous garantissez que personne ne travaillera, n'aura à cotiser plus de 44 ans, ceux qui seront le plus touchés par cette réforme, ce sont ceux qui auront commencé à travailler plus tôt que d'autres. Est-ce que vous assumez de faire porter aux travailleurs les moins diplômés, ceux qui ont des salaires les plus modestes, le poids de la survie de notre système de retraite ?
Ok.
Non, non, elle ne skip pas, elle prend les questions plusieurs par plusieurs.
Une autre question.
Elle répondra juste après, ne vous inquiétez pas.
Oui. Bonjour, Thomas Asportas pour BFM Business. 2 questions. Combien vont rapporter la fin des régimes spéciaux? Quel montant d'économie ça représente? Et puis, cette mesure, c'est aussi pour augmenter le taux d'emploi général dans le pays. Combien de recettes supplémentaires, au-delà des recettes qui vont équilibrer le régime des retraites, combien de recettes supplémentaires vont être liées à ce taux d'emploi supplémentaire? Combien de recettes fiscales supplémentaires, de TVA, de cotisations, etc.?
Je ne suis vraiment pas persuadé que l'augmentation de la durée légale augmente le taux d'emploi.
Sur la façon dont ce projet de loi va être adopté...
Alors, 49.3.
Je le dis très clairement, et peut-être il y a une façon un peu caricaturale de rapporter ce qui s'est passé au cours des derniers mois. 10 projets de loi ont été présentés par mon gouvernement au Parlement. 8 ont été adoptés grâce à des compromis qui ont pu être trouvés avec les autres groupes, avec les groupes qui n'appartiennent pas à la majorité.
Et 2 sont passés par 49.3.
À chaque fois que nous présentons un texte au Parlement, mon gouvernement, mes ministres recherchent des accords, des compromis avec les groupes parlementaires au-delà de la majorité. Et c'est ce que nous allons faire sur ce texte. Je pense que, je le redis, c'est un projet qui porte une réforme de justice, d'équilibre et de progrès. Je note qu'un certain nombre des groupes parlementaires portent depuis plusieurs années leur volonté de porter ce type de projet de réforme des retraites. Et donc nous allons nous employer à rassembler autour de notre projet.
Clairement, les Républicains. Donc là, ce qu'elle dit entre les lignes, c'est je compte sur les Républicains pour voter cette loi pour qu'on n'ait pas besoin du 49-3.
Mise à contribution, si je peux dire, par la réforme. Moi, je ne partage pas du tout ce que vous avez dit. Et je pense que là aussi, il faut arrêter de caricaturer. Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre système, quand vous commencez à travailler à moins de 16 ans, on vous demande, pour pouvoir partir aux 58 ans qu'on vous promet, d'avoir la durée légale de cotisation plus 8 trimestres, c'est-à-dire plus 2 ans. Ce qui veut dire que cette promesse, elle n'est tenue pour personne. Avec les règles que nous allons modifier, nous voulons évidemment tenir compte de ces situations. Et nous voulons avoir un système qui tient compte de chaque âge pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. C'est d'autant plus important parce qu'on peut avoir l'impression que travailler entre 16 et 18 ans, c'est peut-être une histoire du passé. Mais comme vous le savez, on soutient également l'apprentissage et donc les apprentis qui vont aujourd'hui, pour certains, commencer à avoir un contrat de travail à 16 ans, ils pourront, dans de nombreuses années, bénéficier aussi des mesures que nous proposons. Et c'est, je pense, dans l'équilibre qui a été construit entre le report de l'âge légal et l'accélération de la durée de cotisation, mais pas au-delà de ce qui avait été porté dans la réforme de Marisol Touraine, je pense que c'est un projet qui répartit le plus équitablement possible, ou en tout cas qui vise à le faire, la contribution qui est demandée.
La réforme de Marisol Touraine, elle augmentait très progressivement jusqu'en 2035, de mémoire. La durée de cotisation sans toucher à l'âge légal de départ à la retraite.
Chiffre en tête, c'est surtout un enjeu d'équité. Je pense qu'on est aujourd'hui, maintenant, à une période où on peut être chauffeur de bus. Avec un régime de retraite particulier ou bien chauffeur de bus au Havre ou à Rouen en cotisant au régime général. Je pense que c'est quelque chose que nos concitoyens ne comprennent pas bien et donc c'est pour ça, pour ce principe, que nous souhaitons affilier les agents de ces régimes spéciaux au régime général. Je vais laisser le ministre répondre sur votre question sur les équilibres.
D'abord, sur les régimes spéciaux, effectivement, c'est d'abord et avant tout un problème d'équité beaucoup plus qu'un sujet financier. Ensuite, sur ce que peut rapporter la prospérité.
Ah oui, donc en fait, ça rapporte que dalle de supprimer les
retraites. D'abord, je veux redire avec
les régimes spéciaux
de force
en même temps,
que chaque euro de cotisation retraite supplémentaire ira intégralement, totalement, exclusivement au financement du régime de retraite. Parce que c'est ce qui garantit l'équilibre en 2030 et je ne veux laisser aucune ambiguïté sur ce sujet-là. Mais à partir du moment où vous avez plus de personnes qui travaillent, où nous allons avoir plus de personnes de plus de 55 ans qui vont aussi travailler, être sur le marché du travail, cela fera plus d'impôts sur les sociétés, plus de cotisations globalement, plus d'impôts sur le revenu, plus de prospérité globalement pour le pays, plus d'activité pour la France. Et au total, nous estimons qu'à horizon de 2027, cela va faire de l'ordre de 1 point de PIB supplémentaire à horizon 2027. Un peu moins d'un point de PIB à l'horizon 2027.
Ok.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Bonjour, madame, messieurs. Anne Renaud de l'AFP. J'avais une question sur les pensions minimum, les petites pensions. Pour celles qui concerneront les retraités actuels.
Après la fin de la prochaine réponse, je vais m'arrêter là, moi, parce que la conférence de presse peut durer très longtemps. Et j'ai envie de vous résumer ce qu'on a dit et tout.
Voilà. Première question. Et ma deuxième question, c'est que dans vos vœux au gouvernement, vous ne vous êtes projeté que jusqu'à l'été 2023. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Est-ce que c'est lié à ce projet ?
Ah ben alors, la démission, c'est pour quand ?
Très bien.
Bonjour, Jean-Baptiste Aboulas pour Libération. Une question de procédure parlementaire. Vous avez fait le choix d'un PLFSS rectificatif, ce qui limite de fait à 20 jours le délai constitutionnel d'examen en première lecture à l'Assemblée nationale. L'opposition dénonce un artifice pour limiter le temps des débats. Est-ce que vous craignez que ces débats, qui ne pourront pas aller jusqu'à leur terme à l'Assemblée, aient lieu ailleurs, dans la rue, et que cela ait pour effet plutôt de raidir la contestation contre votre projet de loi ?
Merci. Une troisième question.
Bonjour, Francis Brochet pour les quotidiens régionaux du groupe EBRA. La question portait également sur les minimums vieillesse à 85% du SMIC. Il n'est pas financé actuellement de la manière dont vous nous l'avez présenté. Vous ponctionnez déjà un petit peu le régime d'accident du travail. Où pourriez-vous trouver d'autres marges pour d'autres mesures ?
C'est le minimum vieillesse, c'est le minimum...
Alors, sur la mesure que j'ai évoquée pour les retraités actuels qui ont des très petites pensions, donc je vous confirme que c'est le même principe, hein, des retraités qui ont eu une carrière complète au niveau du SMIC, et je dis au niveau du SMIC parce qu'il s'agit de salariés, mais il peut aussi s'agir d'artisans et de commerçants, auront bien une pension égale à 85% du SMIC net. C'est le travail que nous allons mener avec les groupes parlementaires qui y contribueront, donc la majorité bien sûr, mais aussi les Républicains qui ont porté cette demande. Donc nous souhaitons trouver le système le plus efficace, c'est grosso modo 100 euros de plus dont pourront bénéficier ces retraités, mais évidemment pour les retraités actuels, ça peut être, c'est une moyenne. Pourquoi on ne se projette pas au-delà de 6 mois ? Enfin, on a déjà un programme de travail conséquent et je pense que c'est au contraire...
On se projette à 2030.
...ce projet de loi sur les retraites, mais qu'en même temps, il y a d'autres sujets très importants. Vous savez, moi, j'entends les préoccupations des Français. Le président de la République a présenté des mesures importantes sur la santé, par exemple. Le ministre de l'Éducation nationale porte aussi des réformes importantes. Donc nous avions besoin d'avoir cette vision d'ensemble. C'est assez traditionnel que les gouvernements se donnent des feuilles de route à 6 mois. Donc n'y voyez pas de signe particulier. Sur le recours à un PLFSS, donc nous recourons à un PLFSS parce qu'il se trouve que les mesures que nous portons relèvent...
Financement de la sécurité sociale.
J'entends les oppositions qui, dans un premier temps... faisait un procès d'intention sur le recours au 49.3. Et moi, je le redis, ce texte, mon gouvernement l'aborde avec la volonté de trouver des accords, de rassembler une majorité à l'Assemblée nationale. Alors que ça dérange les oppositions qu'on recourt à ce PLFSS plutôt qu'à un projet de loi ordinaire, je peux l'entendre. Mais vous voyez, c'est dans le cadre d'une conception du débat parlementaire que je trouve assez particulière. Parce que quand on nous dit... Chaque député de la NUPES va déposer 1000 amendements par principe. Ben écoutez, je ne pense pas que ce soit une volonté d'éclairer les débats. Donc nous menerons ces débats.
Y aura-t-il une obstruction parlementaire ? Ça va être intéressant à suivre.
D'avoir des
les députés de la NUPES, certains d'entre eux, joueront-ils le jeu de l'obstruction pour bloquer le débat ?
Que les députés de la NUPES permettront que ce débat se tienne.
Oui, bonjour, Clarisse Segé, AEF Info. Mes trois questions vont s'adresser au ministre de la Fonction publique.
J'avais dit que je m'arrêtais là parce que...
Qui concerne
la Fonction publique, tout ça, c'est super sympa. Mais moi, pour ce qui me concerne, je vais m'arrêter là. La conférence de presse continue, les journalistes continuent à poser des questions pour avoir des éclaircissements et des points de détail sur la méthode, etc. Mais je pense qu'on a entendu l'ensemble de ce qui nous intéressait le plus. Reprendre de manière assez simple... Dans 10 jours, le gouvernement va adopter, juste au sein du gouvernement, un projet de loi de finances rectificatives de la sécurité sociale, prévoyant le report de l'âge légal de départ à la retraite à taux plein à 64 ans à horizon 2030. C'est une augmentation qui va se faire par palier de 3 mois tous les ans, un truc comme ça, oui c'est ça, d'ici à 2030, et ça vise l'équilibre. Du système de retraite, l'équilibre financier du système de retraite à horizon 2030. C'est ça la feuille de route du gouvernement. Ils accompagnent cette réforme d'une augmentation du minimum contributif des retraités. Donc toute personne qui aura cotisé l'ensemble de sa durée légale de cotisation ne pourra pas toucher moins de 1200 euros de retraite par mois. C'est une augmentation de 200 balles par mois, je crois, un truc comme ça. Le gouvernement n'augmentera pas les impôts, donc il n'y aura pas davantage de participation de l'État au financement des retraites. Le gouvernement n'augmentera pas les cotisations retraites sur les fiches de paye pour ne pas baisser les salaires nets. Il y a eu un gros don ? Sérieux ? Il y a quelqu'un qui a donné 500 balles à Baxit ? Énorme, merci beaucoup, point d'exclamation Baxit dans le chat, merci beaucoup pour les 500 balles !
Combien ?
500 balles, merci beaucoup, c'est énorme ! Merci beaucoup pour les 500 balles ! Énorme ! Allez, tout le monde danse ! Merci beaucoup pour les 500 balles à Baxit. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci à vous. Merci, 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 merci. Et du coup, j'étais en train de dire... j'étais en train de parler d'un truc chiant en plus. La réforme des retraites, tout ça, tout ça. Donc, report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans d'ici à 2030. Maintien de la réforme Touraine, donc de l'augmentation progressive de la durée de cotisation avec une accélération de son rythme qui était prévu jusqu'en plus de 2030, je crois, de mémoire. Et des procédures spéciales pour les carrières longues, pour l'emploi des seniors, pour la pénibilité et pour la fonction publique. De ce que j'ai compris. C'est un peu les quatre éléments qui ont été concédés aux syndicats, si je puis dire, dans le cadre des discussions. Sur l'emploi des seniors, il y aura des améliorations des dispositifs qui permettront aux seniors de partir pas à partir en pré-retraite, mais d'avoir une espèce de cumul emploi-retraite pour passer d'un plein temps à un mi-temps sur les deux dernières années de sa carrière, tout en commençant à bénéficier un peu de la retraite. Donc bref, ça ne coûtera pas plus cher à l'employeur et ça permettra aux vieux de continuer jusqu'à son âge légal pour ne pas avoir de décote. Une facilitation du cumul emploi-retraite, donc en gros pour rassurer les employeurs en disant « ça ne sert à rien de dire à un vieux, vous ne m'intéressez pas, vous me coûtez trop cher, etc. » En fait, il y a des facilités qui vont permettre de faire une transition douce vers la retraite. La création d'un index sur l'emploi des seniors pour que la France augmente son taux d'emploi des seniors qui est très mauvais. Un accompagnement sur la formation professionnelle aussi pour que les seniors n'hésitent pas s'ils le souhaitent à changer de carrière, à se réorienter. Il y aura des formations, des congés formation qui seront payés, pris en charge intégralement, qui permettront aux seniors éventuellement, enfin pas qu'aux seniors mais à tous les professionnels de changer de voie en cours de carrière tout en continuant à bénéficier des trucs qu'ils avaient acquis avant au lieu de tout perdre comme ça peut être le cas aujourd'hui. Donc on évite des effets, des sortes d'effets de trappe, des trucs comme ça. Un maintien des durées de cotisation sur des droits de départ à la retraite à taux plein à 58 ans pour ceux qui ont bossé avant 16 ans, à 60 ans pour ceux qui ont bossé avant 18 ans, et c'est à partir de 20 ans qu'on rentre dans le régime général. La suppression des régimes spéciaux pour les nouveaux employés, les nouveaux entrants. Donc à partir de septembre prochain, quand vous serez embauché dans une entreprise ou dans un statut qui auparavant avait un régime spécial, vous rentrerez au régime général. Vous n'aurez plus de régime spécial. Les jobs d'été avant 20 ans, ça compte pas. Si, ça compte si tu as 4 trimestres. Il faut 4 trimestres de cotisation avant 20 ans, 4 trimestres de cotisation avant 18 ans, 4 trimestres de cotisation avant 16 ans. Voilà. Donc oui, ça compte si t'en as plus de 4. Enfin, si t'en as 4, quoi. Enfin, les congés maternité vont compter. Du coup, ma mère va pouvoir partir plus tôt. Ah, mais ils comptent déjà, non ? Déjà un trimestre cotisé, non ? précise, peut-être que c'est le plan du gouvernement. Oui, alors je vous le redis, en termes de calendrier sur cette réforme, là, ce que vous venez de voir, ce n'est rien d'autre que la conférence de presse de présentation aux journalistes du projet du gouvernement. Donc vous aurez la semaine prochaine une adoption au Conseil des ministres, enfin dans 10 jours, une adoption au Conseil des ministres, puis début février, un débat au Parlement. Ce débat au Parlement se tiendra dans le cadre des règles d'examen des projets de financement de la sécurité sociale, donc il y a 20 jours maximum. En gros, ce qu'a dit Elisabeth Borne, c'est charge à la gauche de voir si elle veut jouer au jeu de l'obstruction. De toutes les façons, il n'y aura pas plus de 20 jours de discussion. Donc voilà. Est-ce qu'elle utilisera un 49-3 ? On le verra. Pour chaque don de 100 euros à Baxit, vous gagnez un mois de cotisation de retraite. Non, si vous êtes abonné à ma chaîne Twitch, vous bénéficiez de bonus de trimestre de cotisation. Ça a déjà été acté. J'ai vu des gens dans le chat qui disaient qu'ils allaient bosser jusqu'à 67 ans, c'est-à-dire. À partir de 64 ans, vous pouvez prétendre à vos droits à la retraite. Ok ? Donc, vous pourrez. Vous avez compris que 64 ans, ce sera en 2030, qu'aujourd'hui c'est 62, enfin vous avez compris ça. Quand à 64 ans, vous allez frapper à la porte. Quand vous irez frapper à la porte de votre caisse de retraite en demandant vos droits, ils vont regarder vos trimestres de cotisation. Ok ? Et ils vont regarder si vous en avez le bon nombre. Si vous en avez le bon nombre, félicitations, vous pouvez partir à la retraite et vous aurez votre retraite à taux plein. Si vous n'en avez pas suffisamment, vous aurez ce qu'on appelle une décote, donc vous toucherez un peu moins de retraite. Encore une fois, il y a des mécanismes possibles de rachat de trimestre, on ne va pas rentrer dans le détail. 67 ans, c'est l'âge maximal de départ à la retraite, il n'y aura plus de décote à 67 ans. Donc, si vous bossez jusqu'à 67 ans, quand vous irez frapper à la porte, et que vous disiez « Bonjour, j'ai 67 ans, je veux faire valoir mes droits à la retraite », vous partirez automatiquement à taux plein. Vous ne pouvez pas descendre. Voilà. Donc, si vous savez par avance, si vous avez commencé à bosser à 25 ans, vous ajoutez 40, ça fait 65. Mettons que quelqu'un commence à bosser à 27 ans, ça peut arriver. Des études longues, un master suivi d'une formation professionnelle, etc. Ça peut arriver. Si vous n'avez jamais eu de trimestre de cotisation avant l'âge de 27 ans, bah vous partirez à la retraite à 67, à taux plein. À taux plein et au minimum 1200 euros. Oui, exactement, minimum 1200 euros, ça tu l'as compris. Ouais, minimum 1200 euros. Le minimum garanti. Alors, minimum garanti, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Mettons que vous ayez 64 ans. Vous allez frapper à la porte de votre caisse de retraite, vous leur dites « Bonjour, je voudrais partir à la retraite ». Ils vont regarder vos trimestres de cotisation. Vous avez le bon nombre de trimestres, très bien. Maintenant, on prend une calculatrice et on regarde combien vous avez cotisé, combien vous avez ouvert de droits à retraite, et on arrive à un calcul de votre pension de retraite mensuelle. Okay ? Si jamais ce chiffre est en dessous, ce montant de pension est en dessous de 1200, vous êtes automatiquement rehaussé à 1200, vous ne pouvez pas toucher moins. Voilà. C'est ça le minimum contributif. 1200, voilà. C'est 85% du SMIC. À ne pas confondre avec le minimum vieillesse. Minimum vieillesse, c'est si vous n'avez aucune, si vous n'avez pas suffisamment de trimestres de cotisation et que vous atteignez l'âge limite, vous partez avec le minimum vieillesse qui est un peu l'équivalent d'un RSA, quoi. 900 balles, pas plus. Encore une fois, je vous fais la version simple, hein, parce qu'il y a des mécaniques, il y a des mécanismes de rachat, de trimestres bonifiés, etc. Je simplifie. T'es sûr que le 1200 ne remplace pas l'ASPA ? Oui, j'ai bien. Enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que le 1200, c'est pour une carrière complète. Carrière complète, ça veut dire que vous avez tous vos trimestres. 1200, c'est pour une carrière complète. Tu sais ce que ça change pour les intermittents? Ça change rien pour les intermittents. Le régime de l'intermittence, ça ne concerne que l'indemnisation chômage, pas l'indemnisation retraite. Donc l'intermittence, bah, vous cotisez pour votre retraite comme tout le monde, et vous êtes au même régime que tout le monde. Il y a combien de trimestres à valider? Ça dépend de ton âge, ça dépend de ton métier, ça dépend de ton régime de sécurité sociale, de retraite. C'est quoi la SPA? C'est l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. Ce qu'on appelle autrement dans le jargon le minimum vieillesse. Aucun vieux ne peut toucher moins d'argent que ça. En gros, c'est ça le minimum vieillesse. Peu importe qu'il ait cotisé, pas cotisé, machin, il peut pas tomber en dessous. C'est pour ça que je dis que c'est l'équivalent d'un RSA. C'est que le RSA, c'est sur ressources pour les actifs. Et donc, personne ne peut toucher en dessous du RSA. C'est le minimum minimal. Inconditionnel. Est-ce qu'on peut avoir un résumé? Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire, là? Donc, voilà. La prochaine étape qui va être importante, quand même, ça va être la mobilisation des organisations syndicales et des partis politiques de gauche. Une première manifestation est prévue le 21 janvier prochain à l'appel d'organisation de jeunesse. L'intersyndicale, on sait d'ores et déjà que la CFDT, la CGT, etc. sont opposés au report de l'âge légal de départ à la retraite. Ils doivent se coordonner pour décider ensemble d'une journée d'action. Est-ce que ce sera une grève, une manif, un week-end, un jour de semaine? Ils vont en discuter et on verra. Le gouvernement fera donc face probablement à un mouvement social. Est-ce que ce sera un mouvement social d'ampleur? Est-ce que ce sera suivi? Qu'en pensent les Français, etc.? On verra bien. Voilà. Les gros changements, c'est 64 ans mini, fin des régimes spéciaux, hausse du minimum vieillesse. Non, pas hausse du minimum vieillesse. Hausse du minimum contributif. Mesures sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors. Et préservation des carrières longues. En gros, pour les carrières longues, ça change pas grand chose. Si vous avez commencé à bosser avant 16 ans, vous partez à 58 ans. Ça se passe comment pour toi en tant que streamer? Moi, je cotise pour ma retraite, comme tout salarié. Je paye mes cotises. Je sais pas du tout combien j'ouvre de droits, j'en sais rien. Je sais pas. Comment on sait où on en est, à quel régime on parle, etc. Une sorte de ma retraite pour les nuls. Bah, t'as un site internet. Maretraite.fr, un truc comme ça, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui s'occupe de prendre en charge ta retraite. Info retraite, ouais. Inforetraite.gouv.fr ou je sais où, .fr, je sais plus. Bref, il y a un site où tous les Français peuvent aller regarder où est-ce qu'ils en sont. Tu rentres ton numéro de sécu et ça te dit où t'en es. Et ça te permet aussi de faire des simulations. Je sais parce que ma maman l'a fait récemment. Elle m'a dit, putain, je suis allé voir. Pas ouf, hein. Oh, touché que dalle, hein. C'est quoi les principaux changements pour les régimes spéciaux? Le principal changement pour les régimes spéciaux, c'est qu'ils vont disparaître à terme. C'est quoi un régime spécial? C'est un mode de calcul particulier. Okay, pour certains corps de métier, pour certaines professions, pour certaines entreprises et tout. C'est ça un régime spécial. Ces modes de calcul particuliers continueront à exister pour les personnes qui aujourd'hui cotisent à un régime spécial, mais disparaîtront à partir de septembre prochain. Ça veut dire que tous les nouveaux embauchés dans ces entreprises-là, à partir de septembre prochain, ne cotiseront plus au régime spécial, ils cotiseront au régime général. Donc, à partir de septembre 2023, il faudra liquider 43 annuités. Donc, dans 43 ans, la caisse disparaîtra. Voilà. Mais d'ici là, personne ne cotisera. Donc c'est une extinction progressive de la caisse. Quel est le calcul des achats de trimestre? J'en sais rien, ça dépend de tellement de paramètres. Je t'invite à prendre rendez-vous avec un conseiller retraite qui va faire le calcul avec toi. Voilà. Et je vous rappelle que tout ce dont on parle jusque-là, c'est pour ce qu'on appelle les régimes de base, les retraites de base. Et ça ne tient pas compte des éventuelles retraites complémentaires auquel vous avez le droit de souscrire si vous le voulez. Alors là, vous êtes libre d'aller où vous voulez. Il y a des mutuelles, il y a des assurances, il y a des trucs qui placent en bourse, il y a des trucs qui sont solidaires. Faites ce que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé d'en avoir. Les caisses des régimes spéciaux sont déficitaires. Ça dépend lesquelles. Pour la plupart, oui. Elles sont du coup financées par les autres caisses. Hein. Il y a de la péréquation, comme on dit, et par l'État aussi. Mais il y a aussi des régimes spéciaux qui sont bénéficiaires. La Banque de France, les avocats, les médecins, les sénateurs. Bah après, les sénateurs, ils sont alignés sur le régime général, donc... Les avocats, c'est bénéficiaire. Ouais. Oh, les avocats, en général, ils continuent à bosser longtemps. Mais après, il y a la, voilà, il y a les régimes spéciaux de la RATP, les régimes spéciaux des employés du gaz. Il y a plein de régimes spéciaux. D'où viennent tous ces régimes spéciaux? De l'histoire. Tout simplement, de l'histoire. Des luttes sociales, plus exactement. Ça dépend des métiers, ça dépend des moments de l'histoire. Je ne suis pas persuadé que les avocats aient fait des des manifestations promettant la révolution prolétarienne. Mais c'est des protections de corps de métier, c'est des indépendances, c'est plein de trucs. Donc c'est pour ça que le gouvernement présente ça comme une réforme d'équité, en disant, on en revient à la logique de tous les Français doivent cotiser à la même caisse et ouvrir les mêmes droits en fonction de leur cotisation. Les notaires, en plus d'être friqués, ils ont un régime spécial. Ouais, mais... C'est parce qu'ils sont... Oui, les notaires aussi, t'as raison. C'est un peu particulier, les notaires. Mais oui, mais c'est parce qu'ils sont friqués qu'ils ont un régime bénéficiaire, surtout. Les mecs, ils gagnent correctement leur vie. Donc, ils ont un salaire brut important, sur lequel ils cotisent avec un taux important. Et en plus, ils partent tard à la retraite. Bon, bah, évidemment, l'un dans l'autre, t'es bénéficiaire à la fin, hein, c'est normal. Maxi taux de cotisation. Et c'était pareil pour les sénateurs, quand on avait parlé, le régime de cotisation de la caisse de retraite des sénateurs... Les sénateurs, ils cotisent avec un taux énorme pendant longtemps en général. Et en général, ils partent quand même très tard, voire ils meurent. du coup, il y a plein de pognon dans la caisse. Il y a plein d'argent qui rentre, pas beaucoup qui sort. Voilà, ça fait un régime bénéficiaire. Est-ce qu'il y a une annonce étonnante ou est-ce qu'on savait déjà à peu près à quoi la réforme allait ressembler? Des articles qui ont été publiés par des journaux sérieux ces derniers jours et ces dernières semaines, on avait déjà globalement l'architecture du bordel, et puis surtout il suffisait d'écouter Elisabeth Borne, Olivier Dussopt et Emmanuel Macron, et on savait qu'on se dirigeait vers un report de l'âge légal de départ à la retraite. On savait pas si ce serait 64 ou 65, on savait pas si ce serait un PLFRSS, enfin bref, les questions qu'on se posait c'était des questions de paramètres, mais la philosophie on la connaît déjà depuis la présidentielle, hein. Macron, il l'avait dit, en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier. Je réformerai les retraites. Voilà, on le savait, report de l'âge légal de départ. Que va devenir l'argent des caisses de régimes spéciaux, tout ça dans la caisse commune? Ça dépend. T'as régime spécial et régime indépendant, en fait, et caisse indépendante. C'est pas la même chose. Les régimes spéciaux, c'est souvent des caisses qui, au contraire, sont très déficitaires, avec des départs à la retraite très anticipés, avec des taux de cotisation très bas, etc. Donc c'est plutôt quelque chose qui coûte, plutôt quelque chose qui rapporte. Est-ce que ça touche également le régime intermittent ? Non. L'intermittence, encore une fois, ça ne concerne que le chômage, pas la retraite. Pas d'autre solution que celui de Macron et du gouvernement. Ah bah si. Comme tu as suivi la campagne présidentielle sur ma chaîne, tu as vu beaucoup de candidats proposer des chemins très différents pour la retraite. Hein. Il y a plein de pistes possibles. Mais à chaque fois, ça demande de toucher à des paramètres particuliers. Là, il se trouve que le gouvernement a présenté son cahier des charges, si je puis dire. On ne touche pas au montant des impôts, donc à la contribution de l'État à l'équilibre. On ne touche pas au taux de cotisation pour ne pas alourdir le coût du travail. On ne touche pas au montant des pensions. Donc on agit sur la durée de cotisation, sur l'âge légal de départ en retraite. Et on compense les effets de bord par... une meilleure prise en compte de la pénibilité, meilleur emploi des seniors, voilà, prise en compte des carrières longues et tout. Encore une fois, rien de très nouveau. Est-ce que les caisses de retraite bénéficiaires rebasculent une partie de leurs bénéfices aux caisses déficitaires ? Ouais, on appelle ça la péréquation. Le truc, c'est que même en faisant ça, il manque du pognon. Hein. Donc, à la fin, c'est l'État qui complète. Donc, voilà. Voilà où ça nous mène tout ça. Ça fait beaucoup d'infos. Attendez-vous dans les prochains jours à des réactions de la part des politiques. Je vous invite à garder un œil particulier sur les réactions des organisations syndicales pour savoir si le Front syndical est uni. Gardez un œil sur les réactions des Républicains, parce que le gouvernement a l'intention de compter sur eux. Donc écoutez bien, tendez l'oreille quand vous écoutez Éric Ciotti parler, quand vous entendez Olivier Marleix parler. Voilà, écoutez bien tout ça. Garder tout ça en tête et on verra comment va se dérouler la bataille dans la rue avec les organisations syndicales qui ont intention de la mener. Je vous rappelle que demain, si tout se passe bien, on fait une FAQ politique à 15h, mais c'est pas sûr que je la maintienne, ça va dépendre de mon état de fatigue, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, j'ai streamé pendant un nombre d'heures incalculable. Jeudi matin, on fait la niche parlementaire du Rassemblement National dès 8h du mat. On va regarder un petit peu comment le Rassemblement National engage ses travaux pour ses propositions de loi. Et à 19h, je vous rappelle que c'est Backseat qui revient avec une émission spéciale pré-rentrée, émission spéciale pour vous retrouver, pour se retrouver et tout. Un format un peu particulier juste pour celle-là. Et vendredi, à 20h, je serai dans l'hebdo Étienne, chez le copain Samuel Étienne. Et n'hésitez pas à participer au financement de Backseat en allant sur la page du financement participatif qui vous est ouvert, utip.io/Jean Massier. Merci à vous. Ça va être trop cool. Et on va... Ah non, ta gueule. Et on va beaucoup discuter évidemment de la réforme des retraites. Bah, bien entendu, évidemment, c'est dans l'actu, c'est important, c'est la mère des batailles, c'est un truc très attendu dans le quinquennat Macron, le deuxième quinquennat Macron. C'est important. Tout ça. Donc voilà, il me reste qu'à vous faire des bisous. On va faire un raid chez Gomard, parce qu'elle joue à Harry Potter et que c'est marrant. Hop. Des bisous, amusez-vous bien chez Gomard. Bonne suite de stream chez Gomard qui joue à Harry Potter. Merci à vous d'avoir été là, soyez cool avec Gomard, mettez-vous bien, amusez-vous bien. Soyez sympa avec elle. Elle sera sympa avec vous, tout ça, tout ça. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir été là. Et je vous retrouve demain si mon état de fatigue me le permet. Des gros bisous. À très bientôt. Ciao, bye.